Il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Aujourd'hui, il n'est pas seul en studio et je vais lui laisser la place. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, l'invité qui est avec nous, c'est Matt Conture.
Bonjour. Bonjour Matt Conture.
Bonjour Bruno.
Voilà. C'est à l'occasion de l'expo dessin qui a lieu de l'autre côté à Ganges, où il y a deux autres artistes, Rico, qu'on avait entendu il y a quelques semaines, et puis Mordicus qui va présenter ses dessins. Et donc on aura l'occasion de parler de tout ça et de beaucoup d'autres choses. Et ça ne manque pas, ça ne manque pas, tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette exposition, c'est toujours un moment important. Et ces expositions d'une autre façon de faire de la bande dessinée, de faire du dessin, qui est une façon historique, je dirais, puisque Matt Conture, tu appelles tes bandes dessinées des comixtures.
Ouais.
Alors, c'est un lien avec le comics américain, c'est une référence. Et...
Ouais.
Alors, peux-tu nous présenter un peu ce choix de la comixture ?
La plupart du temps, quand on dit comics, on pense aux comics mainstream, quoi, américain. Bon, c'est la publication de la bande dessinée à l'américaine, c'est des petites revues, des petites plaquettes avec un format particulier. Et nous, on s'est dit, avec l'association dont je suis un des cofondateurs, qu'on avait envie de faire des comics de ce format-là. Et par contre, c'était pas en référence aux comics habituels, enfin de la bande dessinée classique américaine, qui est plutôt de la bande dessinée de super-héros, par exemple. Vous voyez, par exemple, je sais pas, Batman, Superman, Spider-Man, etc. Man, la bande dessinée de super-héros, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est toujours d'ailleurs publié sous forme de comics. Mais ce sont des comics qui s'orthographient CS. Cette façon de faire de la bande dessinée tout public et qui a toujours une grande large audience. Tandis que moi, ce qui m'intéressait, ce qui nous intéressait à l'association, parce que ça nous correspondait, c'était les comics avec un X. Alors, ce X à comics était utilisé au départ pour se différencier justement des comics de bande dessinée classique en Amérique, où a eu lieu cette première alternative à la bande dessinée grand public courante qu'on connaissait jusque-là. Et ça s'est fait en même temps ou au lendemain du grand summer flow de ce grand élan de contre-culture qu'il y a eu en particulier à San Francisco. Voilà, et effectivement c'est là que c'est né. C'est Robert Crumb qui a recruté des dessinateurs qui, l'année précédente, donc en 67, faisaient les affiches des concerts de rock psychédélique. Et 68, c'était déjà un peu passé de mode. Hein. Ça a duré qu'un an, hein, ce mouvement psychédélique. D'ailleurs, les hippies fait l'enterrement de hippie, ça a duré même pas un an, je sais pas, enfin, ou un an, à tout casser, mais il y a une vidéo, il y a un film où on voit cette cérémonie d'enterrement de hippie avec les Seeds qui sont encore un jeune groupe garage. Le garage, ça a duré quoi, de 65 à 66? Puis de 66 à 67, c'est le rock psyché. Et puis 68, c'est déjà passé de mode. Ça a duré très peu de temps. Et en fait, ça s'est prolongé. Et ça a été un point de départ aussi. C'est-à-dire, c'est comme le punk, ça n'a pas duré longtemps non plus, historiquement. Et par contre, ça existe toujours, finalement.
C'est ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler, de voir comment il continue d'innerver au niveau musical. Quelques infos qui me paraissent importantes. À plusieurs reprises, j'ai présenté les livres de Victoria Lomasco, qui est une artiste reconnue, qui est maintenant exposée internationalement. Et son travail s'inscrit vraiment dans le reportage dessiné qu'elle a pratiqué en Russie. Ça lui a valu, en mars 2022, de s'exiler, de quitter la Russie, et à cause de ces reportages engagés où elle avait une parole très critique par rapport à l'actualité politique et sociale de la Russie. Actuellement, elle collabore à un très grand nombre de revues et de journaux internationaux. On a le Ruski Reporter, Voïla, qui sont deux revues russes. Il y a le New Yorker, qui accueille désormais les dessins de Victoria Lomasco, ou The Guardian, et en Italie, Internationale. Il y en a d'autres en Belgique, en Allemagne, et même CQFD en France, et c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc on a eu plusieurs livres qui ont été publiés, qui ont été publiés par The Uchi Kuchi, et depuis début mars, alors vous pouvez le regarder en streaming, il y a un épisode d'une série documentaire qui s'appelle Draw for Change, dessiner pour résister. Et dans cette collection, donc, il y a un épisode avec Victoria Lomasco. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'actualité. Elle va participer au Festival international du film de femmes de Créteil ou The Women White Watch Film Festival de Londres, où elle sera donc présente. Et c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'elle circule en France, et en espérant avoir l'occasion de pouvoir discuter avec elle. C'est prévu pour plus tard. Et puis, il y a aussi une autre projection à Leuven, au Docville de Leuven. Virgule. Alors, avec Rico, on avait commencé à discuter, puis on n'avait pas pu se connecter au téléphone, et donc on avait parlé de Voyage en Paris Idoli, qui a un autre titre, le Paris Idoli Comics Band. Alors, c'est donc un livre qui est basé, un livre collectif qui est basé sur une contrainte, et je vais lire cette présentation de la contrainte, parce que je la trouve d'une grande précision. Donc c'est propos de Matt Conture. Je proposais que les planches se fassent non pas sur une blanche et pure feuille de papier vierge, mais sur de franches et pures empreintes de papier sculptées par froissage, humectées d'encre et délicatement tamponnées. Donc chaque participant recevait ainsi des feuilles, et ça y est, les parélides graphiques se sont développés. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'initier comme ça un tel ouvrage collectif et de proposer cette contrainte?
C'est-à-dire qu'au départ, ce projet-là, ce livre-là, c'était un duo avant que je propose, comme tu le racontes là, c'est 10 pages. J'avais proposé 10 pages d'empreintes. Il y avait à peu près 6 empreintes sur chaque page. Et du coup, c'était disposé de façon à former une bande dessinée. Si on entoure l'empreinte d'un trait pour montrer l'appareil d'Oli, qu'on y ait vu, et puis qu'on met des bulles autour de ce personnage, qui viennent du personnage peut-être, ou ça peut venir d'autres, et puis les cases. Voilà, c'est de la bande dessinée à partir d'une empreinte. C'est un moyen déjà de lutter contre la page blanche. Hein. Au lieu de partir d'une case toute blanche, on part d'une case déjà maculée d'une empreinte. Et ensuite, ces empreintes, comme c'est de la matière froissée, nous montre des formes réelles, en fait. C'est un peu comme une photo en négatif d'un morceau de papier qui est imprimé parce qu'on l'a trempé dans l'encre, vous voyez. Du coup, c'est à partir de cette photo abstraite, mais qui est de la matière, qu'on peut assez facilement voir des pareils d'Oli. Enfin, moi, il me semble que c'est assez facile. Après, l'appareil d'Oli, c'est dans le regard de la personne qui la voit et dans son cerveau, en fait. Le regard, c'est pas que dans l'œil. Hein. Du coup, ça dépend un peu aussi de ce qu'on a comme mémoire visuelle. Mais le principe de l'appareil d'Oli, c'est quand même que l'être humain était parmi les animaux et dans notre lointaine mémoire, on a ça, on a ce reste animal qui fait que on est apte à déceler, à reconnaître des visages, des formes d'animaux, des formes de personnes, des formes. Ça date de quand l'homme était chasseur ou la proie de prédateurs, peut-être.
Alors, c'est la parie d'Oli, c'est un exercice ou plus un jeu que l'on fait en regardant les nuages, où on commence à voir des formes très, très différentes. Donc ce principe de voir du figuratif dans un motif abstrait. Alors donc ça, c'est avec Jacques Nau, c'est ça, vous avez fait...
Avec Janko.
Janko.
Alors Janko, c'est un diminutif de Jankowski. En réalité, il s'appelle Guillaume Jankowski. Alors c'était un jeune fraîchement débarqué à Montpellier. Voilà, il a accompagné un autre jeune avec qui il faisait un groupe de rock à Paris. Ce jeune-là, faisant ses études à Paris, voilà, ils avaient fait un groupe de rock ensemble. Et Janko est descendu, a quitté son Paris natal pour venir à Montpellier. Et il était en train de dessiner avec une guitare en bois, assis dans l'herbe, devant une fontaine du parc sous le Pérou. Et puis moi, je m'approche pour voir ce qu'il dessinait. Je croyais qu'il dessinait ce qui était devant lui. Et ces motifs sur sa feuille m'ont intéressé parce que ce qu'il dessinait, c'était comme dessiner de la musique. Et ce gars, en réalité, oui, est un musicien. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a poussé à aller le voir, c'est que son dessin, ça peut ressembler à des volutes, vous voyez, des volutes un peu torsadées qu'on peut voir dans des motifs dont psychédéliques. Et puis, et ça ressemblait aussi à des partitions, mais sans qu'il y ait, y ait la rigueur du solfège qu'on connaît. Et du coup, je trouvais que ça, c'était de la musique dessinée. Et on a parlé de choses comme ça, d'improvisation, que ce soit dessinée ou musicale. Et voilà. Et à partir de ça, on a commencé à organiser des concerts de musique improvisée, et dont on a fait les affiches ensemble. Et donc, on les a faites un peu comme on fait de la musique ensemble, en improvisant ensemble, mais sur du papier, avec des stylos, de la même manière dont on pouvait faire... on l'a fait d'ailleurs dans leur cave, dans la cave où ils répétaient. Eux, ils faisaient un groupe d'improvisation psychédélique qui s'appelait Moteur. Et puis, ils jouaient en première partie d'un autre, c'était Kundaoula, voilà, c'est un musicien tchèque qui est maintenant à Toulouse. Et on faisait l'affiche du concert, il y avait mon groupe aussi, parce qu'on fait du rock, mais il y a aussi de l'improvisation. On a fait cette affiche en dessinant à deux, et puis on a continué et on a fait des quantité de pages, parce que quand on fait une empreinte, on fait le tour, on n'est pas obligé de réfléchir à ce qui va se passer ensuite. On fait des empreintes et hop, on fait le tour et hop, on continue, on enchaîne et hop, très très vite, on s'est retrouvé avec des quantités de pages pas numérotées, sans histoire, voilà. Et il a fallu qu'on s'occupe de ça, et puis ça nous donnait envie de propager ça comme une épidémie. Voilà, c'était d'ailleurs dans mon scénario, la base, j'imaginais que ça soit montré comme un tutoriel sur YouTube. Voilà comment vous pouvez faire de l'appareil de lit à partir de tâches, de papier froissé trempé dans l'encre. Et puis ça fait fureur, tout le monde se met à faire plus que ça. Voilà, c'était ça mon scénario, mais bon, c'était juste une proposition, et puis en réalité, ça s'est fait. Mais le Pareidolique Comics Band, c'est plutôt pour moi un nom de groupe. C'est encore un parallèle avec la musique, quoi. Pour moi, c'est comme si c'était le nom du groupe, et puis le voyage en Pareidolie, c'est le nom de l'album. Voilà.
Alors, il y a quand même pratiquement 40 participants. Ouais. Donc, ça a vraiment pris, ça a vraiment bien réagi, en fait. Parce que lorsqu'on on regarde le livre, on repère les empreintes, on repère la contrainte de base, mais c'est foisonnant.
Ouais, ouais. Et alors, c'est dans la lignée, justement, de... comment faire des bandes dessinées collectives, qui était une chose qui nous tenait à cœur quand on a commencé l'association, la maison d'édition, l'association. Alors, ils ont fondé à ce moment-là l'ouvroir de bandes dessinées potentielles. Alors, ont basé les bandes dessinées collectives sur des contraintes, sur des règles, sur des... voilà, des règles du jeu, des obligations, des contraintes. Tandis que moi, j'ai l'impression que j'ai montré plus la bande dessinée collective faite de très librement, avec le moins de contraintes. Évidemment, il y a la contrainte de la forme, puisque c'est quand même du dessin en noir et blanc sur une feuille rectangulaire. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas trop de contraintes. Voilà. Et du coup, c'est un espèce d'énorme chaos qu'on a mis beaucoup de temps à mettre en forme ensuite.
On va écouter un premier morceau, c'est les Dandy Warhols, Doomsday Bells. Ring dong, ring a ding dong, ring dong, ring a ding ding dong. We'll be right back. Matt Conture est avec nous en studio à l'occasion de l'album Voyage en Paris Dolly du Paris Dolly Comics Band. Ouais. Matt Conture, est-ce que vous pouvez nous parler de la couverture, cette nappe qui est exposée, qui est un très grand format, où là aussi ça fourmille, c'est saturé. Ouais. Alors comment s'est passée cette création ?
Alors c'était une très grande feuille de la taille d'une table qui était posée sur le bureau, la table à dessin de mon collègue voisin d'atelier, dans mon atelier à Montpellier qui s'appelle l'atelier Entrée Libre, qui est aux deux rues du Bail. Mon voisin, c'est Christophe Bauer. Il fait de la bande dessinée, plutôt de SF, old school, sans avoir de notion particulière de dessin réaliste au départ. Du coup, ça donne quelque chose d'assez original. Et il était équipé d'une vraie table à dessin de professionnels, contrairement à nous qui dessinons sur des planches avec des tréteaux. Et lui, il avait une grande table à dessin. Alors moi, je dessinais avec mon ami, mon pote, sur mon bureau et lui à côté. Et puis à côté de nous, il y avait cette grande table à dessin. Et là, on pouvait se mettre debout autour de la table. Et avec la musique qu'on écoutait, sans s'arrêter, on écoutait tout le temps de la musique, on se mettait à danser et on pouvait dessiner en même temps, pendant que les pieds et les jambes remuent, on peut dessiner, ce qui permet de pas être complètement sédentaire et rouillé à la fin de la... Parce que c'est vrai que nous, dessinateurs, on a tendance à oublier un peu qu'on a des corps quand on passe un long temps à dessiner. Et là, c'était le cas de ces dessins qu'on faisait autour de ces tâches. Alors, sur cette grande nappe, on avait fait des empreintes au départ. Et puis, nous, on a dessiné, mais aussi toutes les personnes qui passaient dans notre atelier, parce que l'atelier Entrée Libre, comme son nom l'indique, c'est Entrée Libre. Les gens peuvent entrer et voir ce qu'on y produit, ce qu'on y dessine. Donc, on affiche nos livres, nos dessins. Et voilà, des amis, des collègues peuvent passer, dessiner autour de cette... table sur cette nappe. On laissait cette nappe quand on y était, quand on était là à dessiner. Et puis ça s'est rempli. Et finalement, on l'a réduit, on l'a reproduite au format du livre, qui est assez petit. C'est au format, c'est un comics, mais c'est un peu moyen, quoi. C'est un format qui ressemble un peu plus à. Peut-être à certains mangas, c'est un assez petit format, comme un livre, comme un roman.
Alors qu'elle est beaucoup plus grande, la feuille.
Et alors que, au départ, cette feuille-là, elle est, elle doit faire 1m20 sur 1m60, je sais pas quoi. Enfin.
Et à un moment, on dit, on s'arrête parce que c'est vraiment... Il n'y a pas un espace de libre.
Oui, une fois que c'est rempli, on arrête une fois que tout est rempli, oui. C'est vrai que on est beaucoup dans la remplissure, dans le remplissage de tout. Alors il y en a qui aiment bien qu'on puisse quand même respirer, laisser du blanc. Alors moi je leur dis non, mais ça sert à quoi de laisser du blanc, d'imprimer du rien? Vous voulez imprimer du rien? Ça sert à quoi d'imprimer rien? Si on imprime autant qu'il y ait quelque chose sur la feuille, quoi, voilà. Non, je sais que je suis un peu extrême pour ça, pour ce qui est de remplir.
Alors, on l'avait évoqué avec Rico, il y a aussi une cohérence d'ensemble qui est due aussi à l'envie de reprendre, de rajouter un peu de votre trait, Matt Conture. Comment s'est passée la réception des pages et leur intégration dans le livre?
Ouais. Ben, en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement, sans qu'il y ait besoin de plus que ça de directives, à part le texte dont vous avez vu un extrait au départ. Bon, je dis, voilà, il y a des empreintes, il faut dessiner avec, dessiner autour, si possible sous forme de bande dessinée, mais voilà, rien n'est obligé. Ça peut être aussi des dessins sans aucune forme de bande dessinée. Il suffit de dessiner à partir de l'empreinte, ce qui donne cette cohérence graphique évidente, quoi, à tout. Et puis il y a aussi sûrement que chez des dessinateurs avec qui je peux avoir des affinités graphiques, soit j'aime bien, soit ou sinon des gens de passage. Il y a même dans le livre des personnes qui n'étaient pas particulièrement dessinateurs, mais qui en voyant faire, vous savez, l'homme, en voyant faire, c'est comme les enfants, ils apprennent en voyant faire les plus grands. Et ben c'est pareil pour les adultes, hein, c'est en voyant faire les plus grands ou les plus entraînés à une activité qu'ils le font aussi, même si ils sont pas dessinateurs, auteurs de bande dessinée au départ. Donc il y en a un certain nombre dans ce livre qui font du dessin, peut-être pas de l'art brut, mais parce qu'ils sont pas inculte comme le voudrait l'art brut selon Dubuffet, mais ils font une sorte d'art personnel comme ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a, j'ai l'impression que c'est pas artificiel, c'est ce qui nous vient, et ça donne cette cohérence, voilà, ce mélange des empreintes du dessins autour et dessus, et puis des textes autour, et ben c'est à ça que ça ressemble si on le fait sans y mettre une volonté extérieure, quoi.
Matt Conture, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un des cofondateurs, auteurs cofondateurs de l'association. L'association est un des coéditeur de ce livre. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui avec l'asso, avec l'association?
Moi, je suis toujours un auteur de l'association, puisque mes livres, quand j'en fais, sont toujours édités par l'association. Après, l'association, ça se passe plutôt à Paris, et c'est vrai que c'est plutôt l'équipe qui est dans les bureaux, qui réalise les livres et tout. Disons que mon rôle est plutôt d'être un fondateur, un des six fondateurs historiques. Et accessoirement, c'est marrant que je sois le seul à n'avoir jamais quitté l'association. Ils sont tous fâchés et tout. Mais alors, moi, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient peut-être plus impliqué à divers degrés et pour diverses raisons. Tandis que moi, je suis resté toujours un peu tranquillou à côté de ça. Et du coup, je suis resté dans la place. Voilà.
Alors, on va écouter Courge et puis on parlera musique juste après. Courge, c'est donc le nom de votre groupe.
Ouais.
Respirons la paix des petits oiseaux. Vois le soleil briller sur ce doux coteau. Le grand air est paré de soleil et de flammes. Des arbres propulsés vers l'infini bleu parfait. Leur tendre paille vert, et puis les grillons clament. Et les merveilles s'accoupent. Une brise vient.
parlé tout à l'heure de musique. Il y avait la musique à entrée libre. Il y en a toujours. Et qu'est-ce que vous écoutez? C'est quoi l'ambiance musicale qu'il y a dans l'atelier?
En ce moment, moi, j'ai un nouveau collègue qui est sur le bureau devant moi, qui m'écoute un peu, disons grosso modo, le même genre de musique que moi. Il écoute le groupe Fuzz, qui me faisait écouter dans sa voiture le batteur de mon groupe quand on rentrait de répète. La première chose qu'on écoute, c'était ça, ce groupe de Ty Segall, je ne sais plus comment on prononce. Ty Segall, qui joue de la batterie, alors qu'au départ, il est guitariste. Mais là, dans ce groupe-là, il fait la batterie-chant dans Fuzz. Sinon, après, lui, il écoute aussi du krautrock, parce que moi aussi, j'en écoute. Donc, on se dit, tiens, on va écouter du kraut. Parce que le kraut, c'est assez éclectique et riche comme musique. Ça peut être aussi bien expérimental que assez rock, ou ça peut être une musique, une ambiance sympa. Je sais pas, quand on met un disque de Cannes, quoi, c'est une ambiance supportable avec laquelle il est possible de dessiner, quoi.
Il y a des ambiances insupportables avec lesquelles on ne peut pas dessiner.
Peut-être, ouais.
Alors, c'est quoi? C'est la variétoche?
Oui, par exemple. On a une collègue qui a bien aimé écouter de la variète. Il a bien fallu faire avec. On exprime aussi ce qu'on ressent en l'écoutant. Moi, si ça ne me plaît pas, je le dis aussi, bien sûr.
L'atelier, ça représente quoi dans votre travail?
Je pense que à partir du moment où j'ai dessiné dans un atelier, je me suis éloigné, j'ai pris de la distance avec mon travail, ma bande dessinée, la bande dessinée que je faisais en étant seul chez moi. Était une bande dessinée qui ressemblait à mes conditions de travail. Donc, je faisais une bande dessinée qui était plus un peu comme ce qu'écrirait un bonhomme tout seul, comme ce qui a pu se faire avec certaines littératures. Et puis, seulement c'était en plus avec des dessins. Mais c'était l'exploration d'une personne. Et puis à partir du moment où j'ai eu cette possibilité de faire partie d'un atelier collectif, j'ai fait des choses beaucoup plus collectives aussi, ouais. Pas forcément dans l'atelier d'ailleurs, dans cette période-là où je suis allé faire des choses ailleurs aussi, avec d'autres dessinateurs. Et on a fait beaucoup de revues, bandes dessinées très underground, où c'était des tirages limités, souvent des choses qu'on tirait de nous-mêmes en sérigraphie. Et puis finalement, ça a été plus ou moins recueilli dans l'ensemble, c'est dans le recueil, quoi. Dans le recueil, le Manja Table, qu'on a édité avant ce livre-ci. Le Manja Table, on l'avait édité finalement à deux, tandis que pour celui-ci, j'ai réalisé l'idée que j'avais déjà à ce moment-là, qui était de le coéditer comme on fait pour la musique, pour les disques, vous savez, les disques de musique punk ou hardcore ou noise rock alternatif et tout. Il y a plusieurs labels qui s'associent et finalement les exemplaires sont partagés entre les différents labels. J'avais envie d'essayer d'appliquer ça au livre, à la bande dessinée en particulier, puisque ça me semblait être peut-être une possibilité de nous autodiffuser par ce moyen-là, par le partage du butin comme ça. Et finalement, un de nos coéditeurs a voulu quand même faire de la bande dessinée qui bénéficie du réseau de diffusion dans les librairies. Donc le livre va sortir officiellement dans les librairies de bande dessinée à partir du mois de mai, puisque c'est un diffuseur classique, en plus de notre coédition. Alors c'est rigolo aussi que la coédition réunisse l'association, la maison d'édition fondée par Jean-Christophe Menu, et l'Apocalypse, qui l'a fondée quand il a quitté l'association. Là, il y a les deux éditeurs réunis, mais en tout, il y a 12 coéditeurs. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce que la bande dessinée reste toujours aussi importante dans votre travail, ou est-ce qu'il y a beaucoup de dessins, d'exploration de...
Ben, c'est vrai que moi, dans mon approche de la bande dessinée, ça a toujours été beaucoup axé sur le dessin. Y a assez peu de scénar. Enfin, j'aime moins, disons, devoir réaliser les dessins d'un scénario qui existait déjà. Vous voyez, c'est comme réaliser. Enfin, on connaît déjà l'histoire. On n'a pas la surprise de la découvrir à mesure qu'on l'a fait. Et ce qui est amusant, c'est que de ce principe-là, d'autres cofondateurs de l'association s'en sont inspirés et ont commencé même la bande dessinée avec ce principe qui était d'improviser pour avoir la surprise de voir ce qui allait se passer à mesure. C'est ainsi qu'un auteur pourtant très populaire, qui est Lewis Trondheim, a réalisé son premier album de bande dessinée qui était Lapineau et les carottes de Patagonie. C'était entièrement improvisé. Il a dit qu'il apprenait à dessiner en même temps, mais c'est vrai que cette surprise, ce bonheur de voir ce qui va se passer ensuite quand on dessine directement, ça l'a propulsé dans la bande dessinée, voilà. Donc ça peut servir aussi bien pour de la bande dessinée. Lui, c'est de la bande dessinée tout public, large, grand public, et aussi bien que moi. Alors par contre, c'est vrai que ça m'intéressait plus de faire de la bande dessinée un peu, comme on dirait peut-être péjorativement, je sais pas, mais arty. Hein, comme on pourrait dire aussi pour la musique, art rock, pas hard rock, mais enfin quoique ça peut être aussi. C'est vrai que c'est un peu dur. Souvent, à première vue, ça paraît sombre, ça paraît y a trop, quoi. C'est trop, c'est beaucoup trop. Il faut qu'il y ait moins pour que ça plaise en général, beaucoup moins.
Alors, il y a des dessinateurs qui disent que lorsqu'ils font un dessin sur une pleine page, une grande page, c'est comme s'ils révélaient quelque chose qui est déjà sur la feuille. Est-ce qu'il y a cette sensation quand vous partez sur un dessin qui se déploie sur une feuille ? Est-ce qu'il y a cette sensation de faire émerger quelque chose qui serait...
Ah bah particulièrement dans l'appareil d'Oli, parce que l'appareil d'Oli, c'est ça, c'est enfin pour notre pratique de dessin, partir d'un motif, il s'agit d'en révéler... ce qui peut nous suggérer de figuratif en dessinant. Donc c'est exactement ça. On part d'une empreinte abstraite et on montre, on révèle exactement. Dans la forme la plus c'est au propre, quoi. C'est dans le sens vraiment naturel, voilà, c'est exactement ce qu'on fait, quoi. Révéler le... Et puis, par contre, ce qu'il y a, c'est que, du coup, on, peut-être qu'aussi, on limite la liberté. Disons qu'on montre, on propose ce qu'on a vu dans notre dessin. Et alors, c'est pour ça que j'ai voulu avoir les mêmes empreintes que je propose à plusieurs personnes, pour que... on puisse voir que selon différentes personnes, la même empreinte peut donner une image différente à la fin.
Vous avez toujours une sensibilité punk, Matt Couture?
Ouais, je pense que j'ai pas tellement changé de ça. Je suis resté comme ça, mais après. Je trouve que je suis pas seulement punk, c'est pas, enfin, après punk c'est aussi tellement un mot, valise, où on peut mettre des tas de choses, mais oui, on peut me rattacher à ça. Bah, déjà au départ j'ai été punk, je suis un peu trop jeune pour avoir connu. Disons qu'en 76 ou 77, j'écoutais pas trop de la musique. J'entendais par-ci par-là ce qu'il y avait à la radio, mais sans plus, quoi. J'ai connu après.
Alors, on va écouter un extrait du dernier disque de Diggy Pop, dans lequel il y a un morceau qui s'appelle Néo-Punk. Ça fait du bruit. Il a 75 ans et. C'est impressionnant. C'est tout simplement impressionnant. Frenzy. Vous me disiez que vous aviez vu les Stooges. Bah, Iggy Pop.
Oui.
Donc ça c'est.
Bah j'ai vu Iggy Pop. Oui, à la période où je suis arrivé pour habiter à Montpellier, ouais, je crois vers 93-14, et c'était au Zénith. Et il était accompagné par un groupe qui jouait du pur rock à la Stooge, et il faisait que des morceaux des Stooges, et il se comportait comme dans les vidéos des Stooges où il est debout sur le public. Là. Enfin, vous voyez les plus célèbres vidéos d'Iggy Pop. Là. Et c'était exactement ça. J'avais vraiment l'impression de voir les Stooges dans une très grande. C'était dans une grande salle quand même, hein, le Zénith de Montpellier. Alors ça a été un très grand concert, oui. Et à ce moment-là, Iggy Pop n'était pas encore le vieux monsieur un peu décati qu'il est maintenant, le pauvre.
En tout cas, c'est un bel hommage aux Stooges,
Yep.
Et c'est beaucoup de morceaux sonnent très très bien. Exposé, vous êtes trois, exposé donc à Ganges, au local de l'autre côté, le DLAC. Donc il y a Mordicus, il y a Rico. Qu'est-ce que ça représente pour vous de montrer vos dessins c'est important, c'est parce que vous faites ça régulièrement en fait.
Ouais. Alors ce qui est amusant là, c'est que on fait avec Rico et elle s'appelle, elle signe Mordicus, mais en réalité c'est une fille amie à nous qui s'appelle Sarah et qui dessine avec nous depuis notre première revue qui s'appelait La Table. Et on fait partie du même collectif à la base, parce que ça s'efface jamais. C'est encore un peu comme pour les groupes de musique, hein, toujours cette comparaison. Mais on a été un groupe ensemble et puis ça reste, quoi. On a toujours ce lien. Et voilà, le fait qu'on expose tous les trois ensemble, ça, c'est une occasion de nous revoir, de nous retrouver, de nous réunir. Et voilà, ça, on apprécie ça. Et puis après, c'est vrai que les expositions, ça permet de montrer aux gens qui vivent, dans nos villes, dans notre région, ce qu'on fait, parce que sinon, on n'est pas forcément super visible pour ce qu'on fait comme genre de dessin ou de peinture, puisque Sarah, elle fait plus de la peinture, mais elle expose beaucoup, et puis surtout les gens aiment beaucoup ses peintures parce qu'elle est très douée, elle fait de très belles peintures et qui ont du succès. Les gens souvent achètent ses tableaux, elle expose à Montpellier dans un bar et puis elle repart, elle a tout vendu. Sarah, ah bon, oui, tout vendu.
Alors, il y a Francis Vallejo qui avait fait deux films.
Vadio. Qui est un basque.
Voilà, et donc on peut dédier à Francis Vadio cette émission. Il a fait donc L'éthique du souterrain qui était sur vous, Matt Conture. Et puis, il y a eu Underground. Où en est l'Underground aujourd'hui?
Et un film aussi. Alors, y a un collègue que j'ai connu comme jeune débutant dessinateur, qui fait partie d'un groupe aussi qui s'appelle The Verbin, Z avec deux E comme Z aussi et compagnie. Mais il a dessiné un livre qui s'appelle Underground, mais qui est paru chez un gros éditeur. Et je regarde le livre et dedans, pour moi, c'était que des superstars qui présentaient. C'est pas des inconnus pour cet underground dont il parlait. C'était juste, c'est une autre façon de parler d'une certaine vague de plusieurs courants. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas un seul, il s'agit pas d'un seul style musical. Il y a énormément de différences. Entre Moondog, voilà, par exemple, il parle de Moondog. Moondog, je ne sais pas si vous connaissez, mais...
Oui, toi, tu
connais, Bruno, mais je pense, à la radio, vous connaissez, mais... Enfin, c'est pas... C'est vrai que ça peut être une culture underground, mais c'est quand même un grand compositeur qui a fait des quantités de disques et tout ça, quoi. Pour moi, c'est une vedette, mais... par rapport à des choses plus populaires, ça peut être considéré comme l'underground. Et ainsi, comme ça, il y a des tas de musiciens qui, pour nous paraissent des vedettes, comme, je ne sais pas, les Residents, Velvet Underground, commencer par là. Et c'est vrai que underground, ça a toujours été un terme qui, peut-être porte un peu à confusion parce que ça peut à la fois désigner cette culture qui est pas celle de tout le monde, qui est pas la plus populaire, quelque chose qu'il faut aller chercher et la définition à la base c'est au sens propre aller descendre, il faut aller descendre dans les caves pour aller écouter. Moi, j'ai connu pour le rock ou le noise, et l'expérimental et tout, mais ça existe depuis, je sais pas, les beatniks qui allaient voir du jazz, des noirs qui jouaient dans des caves, et donc qui descendaient underground, et c'est de là que ça vient. Et ça a été un énorme mouvement que toi, t'as dû connaître. Bruno, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai en voyant les actuels qui étaient édités à cette époque-là. J'avais l'impression que c'était la contre-culture de toute la jeunesse autour de mai 68, quoi, à partir de juste avant 68, du psyché, du power, du Summer of Love. À partir de là, il y a eu de la free press, de la presse d'abord psychédélique, et puis qui s'intéressait à toutes les formes de contre-culture qui sont mis à passionner les jeunes dans ces années 70 de libération généralisée et tout. Voilà. Et du coup, c'était énorme, l'underground. Pour moi, c'était colossal et il y a eu une fin un peu brutale quand il y a eu la New Wave s'est mise à être plutôt plus que Star Cravat que...
Enfin, tout à fait. Voilà. Je vais rappeler les caractéristiques de l'exposition. Donc c'est à partir de ce soir, le vernissage démarre à 18h. C'est donc rue Jeu de Ballon à Ganges, au local de l'autre côté. Le livre « Voyage en Paris-Idoli » par le Paris-Idoli Comics Band. Donc c'est une coédition, ça sera en librairie à partir du mois de mai et le livre est au prix de 15 euros. Il y a même un code barre sur cette nappe grandiose.
Oui, c'est une grande première pour les livres édités avec Cricot.
Ouais, ça c'est net.
C'est du fond.
Merci beaucoup Fabien pour cette technique et on se retrouve jeudi prochain.
Et merci à vous et bonne lecture.
Merci, bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.